Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Victor Ouvrard.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Il y a quelques jours, François Hollande était au Caire dans une tournée arabe, une visite qui a suscité de nombreuses critiques du côté des défenseurs des droits de l'homme. Le gouvernement du maréchal Sissi est accusé d'avoir la main dure, d'emprisonner les politiques par milliers et de pratiquer fréquemment la torture. Mais avec ses 90 millions d'habitants, l'Égypte est un marché important et la France n'y vend pas que des armes. Alors, si l'Égypte achète des armes et des céréales à la France, est-ce parce que les caisses du pays sont pleines et ses greniers vides? Et si les caisses sont pleines, pourquoi l'Égypte a-t-elle besoin de l'aide financière des pays du Golfe pour survivre? Le doublement du canal de Suez et les projets pharaoniques du président Sissi sont-ils la solution aux problèmes du pays? Fournissent-ils par exemple assez d'emplois? Voilà quelques-unes des questions que je vais poser aux trois invités que je vous présente maintenant dans une émission qui, vous l'aurez compris, est consacrée à l'Égypte. Bonjour Robert Solé.
Bonjour.
Robert Solé, vous êtes écrivain et journaliste. Vous avez fait l'essentiel de votre carrière au journal Le Monde, pour lequel vous avez en particulier couvert l'actualité religieuse avant de monter dans la hiérarchie. Vous avez aussi été correspondant à Rome et à Washington, mais vous êtes né au Caire, vous êtes franco-égyptien, et l'Égypte est omniprésente dans votre œuvre romanesque, comme dans vos nombreux essais, des biographies par exemple de Anwar el Sadat ou de Champollion. Est-ce que vous y parlez économie dans ces livres?
Je ne suis pas économiste, mais on ne peut pas ne pas parler d'économie, c'est essentiel tout de même.
Comment en parlez-vous dans les romans par exemple? Est-ce que l'économie est présente en filigrane dans vos romans?
Elle est toujours présente, l'économie ne peut pas ne pas être présente. Mais ce ne sont pas des romans économiques, bien entendu.
Par exemple, le dernier d'entre eux.
Oh, le dernier d'entre eux, qui s'appelle Hôtel Maharajan, c'est l'histoire d'un hôtel dans une ville imaginaire. Ce n'est pas forcément l'Égypte, mais enfin, on peut reconnaître l'Égypte. C'est un hôtel qui subit tous les aléas de l'histoire. Finalement, un hôtel créé en 1909 jusqu'à aujourd'hui. Alors, inévitablement, il est aussi question d'abord d'économie de l'hôtel lui-même et puis l'économie de l'environnement, bien sûr.
Alors avec nous dans ce studio également Mounir Makar. Bonjour Mounir Makar.
Bonjour.
Mounir Makar, vous arrivez tout juste du Caire, vous descendez quasiment de l'avion. Je vous dois donc des remerciements pour être dans ce studio. Vous êtes un homme d'affaires à la tête d'une exploitation agricole bio. Vous êtes également intervenu dans le passé dans les affaires bancaires. Comment est-ce qu'on passe de la banque à l'agriculture?
C'est un excellent exercice. La banque est un métier tout à fait théorique. C'est-à-dire qu'on parle de grands chiffres, de grands projets que l'on ne voit pas nécessairement. Alors que l'agriculture, c'est le cas de le dire, c'est terre à terre. Donc, si on ne fait pas ce qu'il faut, on a un problème grave. Donc, c'est un bon exercice de passer de l'un à l'autre et d'avoir une optique totalement différente dans la vie.
Alors, on va voir si votre voisin est d'accord, parce que votre voisin, Pascal Devaux, bonjour.
Bonjour.
Donc, votre voisin, disais-je, est économiste, mais économiste à la BNP Paribas, la grande banque française. Vous y couvrez les pays du Moyen-Orient. Et sur le réseau social LinkedIn, votre page affiche une quantité impressionnante d'articles consacrés à l'économie égyptienne. Pour une banque comme celle dans laquelle vous travaillez, l'Égypte, est-ce que c'est un pays important?
Oui, c'est un pays très important dans l'ensemble de la région Moyen-Orient, parce que c'est une population, c'est le pays le plus peuplé de la région, avec une population très éduquée, enfin relativement bien éduquée par rapport aux standards régionaux, et un potentiel économique important. Même si c'est un pays assez risqué pour y faire des affaires, le potentiel est quand même important, donc ce qui fait que ça reste un pays attirant pour une banque internationale.
Et la BNP Paribas y est très implantée?
Elle y était très implantée, elle y est un peu moins depuis les événements de 2011, et on revient dans le pays, on y refait plus d'activités qu'auparavant.
Et vous y étiez il y a un mois.
Exactement, oui.
Alors au cours de cette émission, nous avons rendez-vous avec notre correspondant au Caire, François Humfer-Kataji, pour deux reportages, l'un sur la dévaluation de la livre égyptienne, l'autre sur le boom assez relatif quand même des start-up au Caire. Nous reviendrons aussi au cours de cette émission sur la conférence qui s'est tenue l'an dernier à Sharm el-Sheikh pour attirer les investisseurs en Égypte et sur le doublement du canal de Suez.
présence de nombreuses entreprises françaises témoigne de leur confiance à l'égard des Égyptiens et de l'avenir de votre pays. 150 filiales françaises sont présentes ici en Égypte, permettant l'emploi de près de 35 000 Égyptiens. La France est ainsi le sixième investisseur étranger en Égypte. Je pourrais y voir un compliment. J'y vois un manque d'ambition. Nous devons être bien plus, bien mieux que le sixième investisseur étranger en Égypte. Nous n'avons pas vocation à être le premier, mais nous avons sans doute la prétention de gravir encore quelques marches.
Alors vous aurez reconnu cette voix, c'était celle de François Hollande, le président français, dans un discours prononcé au Caire lors de son récent déplacement. L'Égypte a été la première à acheter des avions de chasse Rafale à la France. Est-ce que l'Égypte pèse lourd dans la balance commerciale française, Pascal Devaux ?
Non, c'est un pays assez marginal. Alors la France est un partenaire relativement important pour l'Égypte, mais pour la France, l'Égypte est un partenaire.
François Hollande disait, nous sommes le sixième partenaire commercial de l'Égypte. Quels sont les autres ?
Alors il y a essentiellement les pays du Golfe, notamment Arabie Saoudite. Après, un des principaux débouchés à l'exportation pour l'Égypte, c'est l'Italie. Puis après, c'est ce qui est États-Unis et zone euro au sens large.
Vous qui passez beaucoup de temps quand même entre l'Égypte et la France, Mounir Makar, le fait que finalement l'Égypte soit un petit partenaire commercial pour la France, est-ce que vous ressentez ça comme un échec personnel ?
Ah non, pas du tout. D'abord, c'est une question relative. Nous avons dans nos échanges avec la France... Pour l'Égypte, d'un point de vue égyptien, cela touche une gamme assez vaste de produits et d'activités. Donc ce n'est pas seulement du militaire, mais il y a dans les travaux publics, dans le métro, dans l'électricité, les énergies nouvelles. Donc on trouve la France active dans des secteurs très importants. Et d'ailleurs, les accords qui ont été signés à l'occasion de la visite du président Hollande témoignent de la diversité des activités ou des échanges entre l'Égypte et la France. Que l'Égypte ne pèse pas dans la balance commerciale française, c'est un point auquel moi je ne peux pas répondre. Mais je sais que l'Égypte a marqué une première pour les Rafales, qui était quand même un élément assez important. Et ça a été un tournant dans l'industrie, puisque par la suite, il y a eu d'autres contrats qui ont suivi pour deux autres pays. Donc l'Égypte a donné le ton. Si elle ne pèse pas dans la balance, elle a quand même joué dans un équilibre et avec des conséquences indirectes sur d'autres pays qui sont assez remarqués.
Robert Solé, la France et l'Égypte, c'est une vieille histoire. On peut remonter à Napoléon Bonaparte. On va pas retracer plus de deux siècles d'histoire dans cette émission, c'est pas l'objet. Mais est-ce que vous diriez que le niveau actuel des échanges économiques, des relations bilatérales marque un temps fort de la relation entre ces deux pays? Comment est-ce que vous le ressentez?
Oui, parce qu'il y a eu des hauts et des bas et on est plutôt dans une période de hausse, je dirais. Il faut se rappeler quand même que la France et l'Égypte ont eu une relation tout à fait privilégiée pendant un siècle, plus d'un siècle. Ce sont les Anglais qui occupaient l'Égypte, mais c'est la France qui avait un petit peu le cœur, je dirais, des Égyptiens. La France était extrêmement présente en Égypte sur le plan économique, bien sûr, mais aussi culturel. En raison de l'égyptologie, c'était un Français qui avait déchiffré les hiéroglyphes.
Champollion.
C'est un Français qui avait été à l'origine du canal de Suez, Ferdinand de Lesseps. Tout ça a fait que la France et l'Égypte ont eu une relation exceptionnelle sur le plan économique, mais aussi sur le plan culturel et, je dirais, affectif.
150 entreprises françaises en Égypte, disait François Hollande. Elles emploient 35 000 salariés égyptiens, rappelait-il aussi. Mais la France, donc, n'est que le sixième investisseur. Est-ce que ça veut dire que l'Égypte est très ouverte aux capitaux étrangers, aux investisseurs étrangers, Mounir Makar ?
Bien entendu. Toute la philosophie que nous avons développée depuis 1974... avec sa date, et d'essayer d'encourager les investisseurs étrangers, de convaincre le capital étranger à venir en Égypte. Et pour des successions de lois les unes après les autres, on a quand même vu les choses s'ouvrir et se développer entre 1974 et aujourd'hui. On a des nationalités très variées, donc on est un petit peu dans le monde entier à essayer d'inviter les investisseurs étrangers à venir en Égypte.
Pascal Deveau, je vous pose la même question.
Oui, alors si on rentre un peu plus dans le détail des investissements étrangers, il y a quand même quelque chose à voir, c'est que ce sont en général des investissements qui créent assez peu d'emplois. Ce qu'on a vu depuis le début des années 2000, c'est qu'une grande partie de ces investissements se sont faits dans le secteur énergétique, notamment l'exploitation du gaz et du pétrole, pour des montants très importants. Mais d'une manière générale, pour l'instant, même si l'Égypte est un pays très ouvert aux investisseurs étrangers, ce sont des investissements qui créent relativement peu d'emplois par rapport aux besoins de l'économie égyptienne en termes de création d'emplois.
Alors cette ouverture aux capitaux étrangers, cet appel aux capitaux étrangers, ça fait partie d'une stratégie économique du pouvoir égyptien. L'an dernier, au mois de mars 2015, une grande conférence a réuni les représentants d'une centaine de pays et environ 1500 investisseurs potentiels à Sharm el-Sheikh, la grande station balnéaire égyptienne. Stanislas Daichimier y était pour RFI et on écoute le reportage qu'il avait alors réalisé.
Paris payant pour Abdel Fattah al-Sissi, les milliards de dollars promis confortent le pouvoir du président égyptien. Le bilan de la conférence de Sharm el-Sheikh est largement satisfaisant, selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, Mounir Fakhri Abdel Nour.
C'est un succès retentissant. L'intérêt des investisseurs a été évident. D'abord, il y a le soutien financier des pays arabes, 12 milliards de dollars, dont 6 milliards en dépôt auprès de la Banque centrale égyptienne. Ça va résoudre le problème de liquidité important auquel fait face la Banque centrale d'Égypte, mais aussi 6 milliards de dollars des trois pays arabes en investissement direct dans des projets de développement.
Hors des pays arabes, les promesses ont également dépassé les attentes. Dans le domaine de l'énergie, par exemple, le conglomérat allemand Siemens a signé avec le gouvernement égyptien un contrat de 4 milliards d'euros pour la construction d'une centrale thermique d'une capacité de 4400 MW et des éoliennes d'une capacité totale de 2000 MW. Signature également de protocole d'accord d'un montant de 6 milliards d'euros pour d'autres projets. Un succès qui n'étonne pas la directrice générale de la Chambre de commerce franco-égyptienne, Nathalie Stragalis.
Le climat est très fortement encourageant vis-à-vis des réformes fiscales, vis-à-vis de toutes sortes de lois changées pour faciliter les investissements. La preuve, la présence de 89 délégations du monde entier qui sont venues. Si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas eu autant de présence.
24 heures avant le début de la conférence, le président égyptien a promulgué une loi qui lève certains obstacles aux investisseurs étrangers et le forum a lancé des dizaines de projets dans différents secteurs, notamment l'agro-industrie. Un participant était particulièrement intéressé, le président du consortium panafricain de l'agro-business et de l'agro-industrie, Moussa Seck.
Le PIB agricole de l'Égypte fait partie des deux plus grands PIB du continent. C'est l'occasion pour les pays africains de s'inspirer. Là, un pays où il ne pleut pas une seule goutte d'eau, et la deuxième puissance agricole du continent après le Nigeria. Ce qui est tout à fait normal parce que le Nigeria culture sur près de 30 millions d'hectares alors que l'Égypte ne travaille que sur 3,5 millions d'hectares.
La conférence économique internationale d'Abdel Fattah al-Sissi est la première d'une série d'autres. Le président égyptien a annoncé qu'elle sera annuelle.
C'était un reportage signé Stanislas Daichimi à Sharm el-Sheikh, c'était donc il y a un an. Est-ce que les pays du Golfe et les pays arabes ont tenu leurs promesses, Pascal Delvaux? L'argent est arrivé, vraiment?
Pas vraiment pour l'instant, parce que c'est assez difficile à estimer, mais il y a un point qui a été fait récemment. À Sharm el-Sheikh, il y a dans l'ensemble des promesses, elle se montait à peu près à 130 milliards de dollars. Et si on fait un point actuellement, on est dans ce qui a commencé à être engagé ou qui est déjà engagé, on arrive à 20 ou 30 milliards de dollars au maximum.
C'est une déception, Mounir Makar ?
Non, parce que de toute façon, Sharm el-Sheikh devait avoir... L'effet d'annonce était déjà le succès de la chose. Le fait que Sharm el-Sheikh ait eu lieu, c'était déjà une reconnaissance des intentions de l'Égypte, de sa politique ou de ses stratégies. Et c'était une opération de public relations extrêmement bien réussie.
Relations publiques.
Voilà, de relations publiques. En plus de ça, évidemment, ça enclenche un mouvement. Que le mouvement prenne du temps, ça n'est pas une déception.
Robert Solé.
Moi, en écoutant Monsieur Delvaux et Monsieur Makar, je me disais que l'Égypte vit quand même avec un ballon d'oxygène, c'est-à-dire indépendamment des investissements eux-mêmes, il y a une aide quand même extrêmement importante qui tient à l'importance de l'Égypte. L'Égypte bénéficie d'une rente géostratégique, donc notamment de la part de l'Arabie Saoudite, mais aussi des États-Unis, une aide militaire essentiellement de la part des États-Unis, une aide économique très importante de la part de l'Arabie Saoudite, du Koweït, des Émirats du Golfe. C'est essentiel pour l'Égypte. L'Égypte a heureusement d'autres revenus. On a parlé du canal de Suez, mais il y a aussi le tourisme. On va en parler. Le rapatriement d'argent d'émigrés. C'est une économie quasi rentière, mais diversifiée. Elle a cette chance d'être diversifiée quand même.
Mounir Makar, vous n'aviez pas l'air d'accord entendant Robert Solé.
En ce qui concerne l'aide militaire américaine ou l'aide financière américaine, là j'ai peut-être quelques réserves. Je considère que de toute façon c'est une aide qui est extrêmement conditionnée, qui n'a pas augmenté ou bien qui a plutôt régressé au cours des années, alors que la population égyptienne a augmenté considérablement. Donc le ratio est à revoir. Il ne faut pas annoncer le chiffre. Il était peut-être important il y a 30 ans. Aujourd'hui, dans les proportions, il est tout à fait modeste. Deuxièmement, les contraintes qui accompagnent cette aide parfois ne vont pas exactement dans l'angle de la politique que l'Égypte souhaite développer. D'où justement les diversifications qui se sont passées avec la France et d'autres pays.
La Chine, l'Arabie Saoudite, dont parlait Robert Solé.
Je parle de l'aide militaire, oui. Des relations, enfin de ce qui se concerne l'engagement sur les équipements militaires. Une partie va dans le cadre de l'aide américaine, qu'elle finance, mais l'Égypte, cette condition-là ne lui convient peut-être pas exactement. Donc il y a aujourd'hui une tendance à trouver des ressources différentes pour aller dans d'autres directions.
La relation avec l'Arabie Saoudite, Pascal Delvaux.
Oui, elle est tout à fait cruciale pour l'Égypte. Et c'est vrai que d'un point de vue économique, le soutien américain est relativement marginal par rapport aux pays du Golfe. Et on peut estimer que l'Égypte, par rapport à ses besoins en financement externe, c'est-à-dire qu'elle a un besoin en dollars tous les ans qui est entre 15 et 20 milliards de dollars pour éviter que sa monnaie s'effondre. Et l'essentiel du soutien extérieur provenait du Qatar jusqu'au gouvernement Morsi et après est provenu plutôt de l'Arabie Saoudite. On a vu au début de cette année 2016 et à la fin 2015 un soutien de l'Arabie Saoudite renouvelé, un soutien en termes de produits pétroliers équivalent à plus de 20 milliards
c'est-à-dire
de dollars.
Que l'Arabie Saoudite fournit du brut ou des
exactement,
produits raffinés.
Exactement. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, c'est autant auparavant, il y a un an ou deux, on avait un soutien qui était sans aucune condition, qui était sous forme de don quasiment ou de prêt à des conditions très très favorables. Et on a un soutien de l'Arabie Saoudite et des pays du Golfe en général qui se dirigent plus vers des investissements ou des prêts.
Est-ce que ça veut dire que si ce ballon d'oxygène, comme le disait Robert Solé, n'existait pas, si les Saoudiens ou les Qataris ne donnaient pas cet argent, l'Égypte s'effondrerait sur le plan économique ?
Exactement, oui, tout à fait. Oui.
Mais pourquoi, Mounir Makar ?
J'émets quelques réserves.
Émettez-les.
J'émets quelques réserves.
Mais pourquoi, sur la période récente, uniquement, je parle. Mounir Makar,
j'émets quelques réserves. Ceci étant dit, nous sommes en train de passer par une phase extrêmement difficile en Égypte. Pour deux raisons. La première, c'est que le tourisme s'est effondré. Or, la source principale de l'Égypte, c'est bien le tourisme. Et le tourisme s'est effondré dans des conditions assez importantes. Pour des raisons internes, pour des raisons régionales, pour quelle que soit la raison, mais c'est le cas. La deuxième raison qui gêne en ce moment l'Égypte, c'est que l'Égypte vivait fondamentalement des transferts des travailleurs émigrés. Qui venaient de quel pays ? Ils venaient d'Irak, qui n'existe plus. Qui venaient de la Libye, qui existe difficilement. Donc ce sont des conditions qui aujourd'hui, des restreintes dans les recettes de l'Égypte qui sont assez importantes et qui posent problème.
Eh bien, Mounir Makar, c'est la fin de la première partie de cette émission. Nous nous retrouvons dans quelques minutes après un flash d'actualité. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
International.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Victor Ouvrard.
Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré à l'Égypte. L'Égypte qui multiplie les achats militaires et dont l'économie dépendait pour une bonne part des exportations d'hydrocarbures et du tourisme. L'Égypte qui, sous la conduite du président Al-Sissi, a doublé le canal de Suez, premier d'une longue série de travaux pharaoniques. Dans la première partie de cette émission, nous avons surtout vu que l'Égypte était un pays qui dépendait de l'arrivée des capitaux étrangers et de la manne financière déversée par les pays du Golfe. Nous avons évoqué cela avec nos trois invités, l'homme d'affaires égyptien Mounir Makar, le journaliste et écrivain Robert Solé, Pascal Deveau, économiste à la banque BNP Paribas. Mais le moment est venu de voir plus précisément comment va cette économie. Nous avons commencer à le faire avec vous à la fin de la première partie. Mounir Makar, cette économie ne va pas très bien malgré l'afflux de capitaux dont nous parlions tout à l'heure, à tel point qu'il y a deux semaines, la Banque centrale égyptienne a été obligée de dévaluer la livre de 13% par rapport au dollar américain. Objectif, faire face à un manque cruel de devises. C'est un reportage écho d'ici, écho d'ailleurs, signé François Humfer-Kataji au Caire.
Voulant offrir quelques euros à sa sœur qui habite en Allemagne, Naguib ne comprend pas bien ce qui lui est arrivé il y a quelques jours.
Je suis allé au bureau de change au centre-ville, j'ai demandé 100 euros pour ma sœur, mais ils ont refusé, je ne sais pas pourquoi. C'est pourtant un petit montant, je suis allé dans plusieurs bureaux de change, mais ils ont tout refusé.
Peu de temps avant la dévaluation de la livre, impossible donc au Caire de changer les devises librement, les acteurs effrayés de perdre la valeur de leurs biens en jouant sur le marché d'échange. L'Égypte souffre d'un énorme déficit financier et les flux de devises étrangères sont bien trop insuffisants pour faire fonctionner l'économie. Les monarchies du Golfe ont longtemps sauvé l'Égypte de la faillite en apportant au pays une aide de plus de 23 milliards de dollars. Une manne qui ne suffit pas à compenser l'énorme déséquilibre de la balance commerciale égyptienne. Amr Adli, membre du Carnegie Middle East for Economy.
Il y a un aspect positif à la dévaluation. Cela reflète la valeur réelle de la livre sur les marchés de change. Et cela donne plus de confiance aux investisseurs qui peuvent mieux prévoir, car cela réduit la spéculation. C'est donc une action qui devrait encourager les investisseurs en Égypte. L'autre point positif, c'est la diminution des importations. Car bien sûr, les produits importés vont coûter plus cher. À l'inverse, les produits d'exportation vont devenir plus compétitifs. Cependant, il y a bien sûr des aspects négatifs. C'est l'augmentation des prix, et cela concerne les plus défavorisés. Cela fait apparaître le risque de manifestations et des protestations sociales. Et cela touche aussi les industriels, car ils doivent importer pour produire. Cela va donc augmenter le coût de production. L'économie va donc avoir du mal à repartir.
Et c'est en effet ce que déplore Ahmed Ranchad, le directeur de la filiale égyptienne de 5 à 7, une PME spécialisée dans le nettoyage à sec.
Maintenant, nous avons un problème avec nos produits importés. Il y a un nouveau projet pour les taxer. C'est un gros problème. Il nous coûte très cher. Nous sommes obligés d'augmenter nos prix. Et en plus, ces produits, nous les payons en euros. Mais la livre est dévaluée. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on a commencé, l'euro valait 7 livres. Maintenant, un euro vaut 11 livres. Vous voyez la différence? C'est très important.
Les réserves de change de la Banque centrale en Égypte ont fondu, passant de plus de 36 milliards de dollars fin 2010 à seulement 16 milliards actuellement. Un espoir cependant pour l'économie égyptienne, l'extraction du gaz dans l'immense champ Zohr découvert l'été dernier au large de la Méditerranée.
Un reportage signé François Humfer-Kataji au Caire. Robert Solé, je vous voyais opiner du chef et en écoutant ce reportage, vous compatissez au problème des
oui.
Égyptiens ?
Écoutez, j'étais en Égypte il n'y a pas longtemps. En effet, il y a une hausse des prix depuis quelques années déjà, qui est vivement ressentie par toute une partie de la population qui a du mal à vivre. Mais on a l'impression qu'il y a deux Égyptes. Quand on va en Égypte, il y a cette Égypte qui souffre, qui a du mal à boucler ses fins de mois, en raison justement d'une augmentation formidable de certains produits, et puis une autre Égypte qui investit, qui construit, qui des villes nouvelles, qui pousse, etc. Il y a vraiment deux Égyptes. Alors, tout est assez contradictoire. En Égypte, on peut avoir l'impression d'une catastrophe ou d'une très grande activité, d'un marché très actif, etc. Simplement, l'Égypte est aujourd'hui victime de l'environnement régional, tout ce qui se passe dans la région. L'Égypte a une frontière de 1000 km avec la Libye. L'Égypte a dans le Sinaï des djihadistes qui ont fait allégeance à l'État islamique. Il y a ce contexte qui rend les investisseurs timides et qui fait qu'il y a peu de touristes en Égypte aujourd'hui. Le canal de Suez, on en a parlé.
Et on va en reparler.
Oui, le canal de Suez est un peu victime, lui, de la... Il y a eu d'énormes investissements, mais un ralentissement de la du trafic mondial.
Et je voulais interroger Mounir Makar, ce que dit Robert Solé, vous êtes dans la deuxième Égypte, celle du haut du chapeau.
Non, pas nécessaire. Enfin, oui, on est en contact avec tout le monde, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que, d'abord, je pense que le secteur privé égyptien est une grande source d'investissement. Quand on parlait des investissements étrangers, il y a aussi le secteur égyptien, le capital égyptien est investi en Égypte. Ce qui fait qu'une partie...
Ce qui a été le cas d'ailleurs pour le canal de Suez, qui a été financé par des capitaux égyptiens.
Largement. Mais les grands travaux, des travaux, etc., des créations d'emplois, ce n'est pas seulement l'investissement étranger, c'est aussi l'investissement national qui joue un rôle important. Deuxièmement, je pense qu'il y a une partie d'Égypte qui n'est pas répertoriée. L'économie égyptienne n'est pas entièrement répertoriée. Si on regarde les chiffres officiels, évidemment, on a des équations qui sont inquiétantes.
C'est la formalité à laquelle
L'économie, oui, l'économie parallèle, qui est en tout bien tout honneur. Ce n'est pas nécessairement une non-économie, mais c'est une économie qui n'est pas répertoriée. Et c'est cette économie-là qui porte le pays.
Robert Solé ?
Il y a une chose dont on n'a pas parlé, qui est très importante en Égypte, je pense que Mounir Makar sera d'accord, ce sont les subventions.
Oui.
Une grande partie du budget national est pris par ces subventions, subventions alimentaires, subventions à l'énergie, qui permettent aux gens de vivre aussi, qui permettent aux gens de vivre, mais qui grèvent très lourdement le budget de l'État.
Et Pascal Deveau, les organismes financiers internationaux, le FMI, la Banque mondiale, ont pourtant beaucoup insisté pour que l'Égypte réduise ses subventions.
Il y a eu un début de réforme, notamment les subventions à l'énergie. Alors, les subventions énergie ont un peu baissé en pourcentage du PIB, mais c'est vrai qu'en pourcentage du revenu du gouvernement, c'est encore plus de 40% du revenu qui est consacré aux subventions, donc à la fois énergétique et alimentaire, surtout énergétique quand même. Si on rajoute le poste salaire du secteur public, qui est à peu près 15-20% des revenus, plus la charge d'intérêt de la dette, qui est encore 40%, la totalité du revenu du gouvernement est complètement dépensée par les subventions, la charge d'intérêt et les salaires.
Est-ce que ça a un lien avec cette décision de la Banque centrale égyptienne de dévaluer la monnaie ?
Cette décision de la Banque centrale est un peu différente. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une situation de liquidité en dollars dans le pays qui était devenue très tendue, étant donné qu'il y a de moins en moins de dollars qui rentrent. On a moins de dollars qui sont disponibles dans l'économie. Donc ce qui s'est passé, la Banque centrale a continué à vouloir défendre une parité de la livre par rapport au dollar au prix d'un rationnement des dollars dans l'économie. Ça a eu pour conséquence principale que beaucoup de personnes en Égypte ne pouvaient plus importer l'ensemble des biens qu'ils voulaient importer pour leur activité, ce qui a eu des conséquences sur l'activité économique.
Mounir Makar, alors, vous y êtes soumis à ce double marché, le marché noir, marché officiel, vous en tant qu'exploitant agricole?
Le marché officiel, pour ce qui est de la devise en ce moment, est inexistant.
Exactement.
C'est-à-dire, il est nominal, on a une référence nominale d'une devise qui n'est pas accessible à ce prix en tous les cas. Le marché donc libre est tenu maintenant en parallèle du secteur bancaire.
C'est-à-dire, ça vous complique la vie en
Bien tant sûr, que ça complique la vie parce que ça touche tout. Ça peut toucher le prix des semences, ça peut toucher le importé, ça peut être un engrais, ça peut être n'importe quoi.
Surtout qu'il y a un écart très important entre le cours officiel et le cours du marché noir qui est à peu près à 20-25%.
Mais on a l'impression, en vous écoutant, que l'Égypte importe tout, qu'elle ne produit rien.
Elle importe une partie de son outil de production.
C'est-à-dire ?
Ça peut être des plastiques, ça peut être quelques composantes dans une industrie alimentaire, etc. etc.
Et c'est le premier importateur mondial
de blé aussi, tout de même.
Oui, blé.
C'est 7% du marché mondial et les Égyptiens.
Oui.
Robert Solé.
Oui, l'Égypte n'arrive pas à nourrir sa population. Elle est obligée d'importer d'énormes quantités de blé. Le pain en Égypte est une chose essentielle.
Onir Makar, vous êtes agriculteur, donc oui, vous êtes visé là.
Mais je tiens à faire un point. L'Égypte augmente d'à peu près 5 millions d'habitants tous les 3 ans. Oui. Ce qui représente la totalité de la population de la Norvège. C'est comme si on importait, vieillards compris et enfants nouveau-nés, 5 millions d'habitants par 3 ans. C'est une gestion qui est faite sans problème. Nous le gérons sans problème. Nous continuons à offrir le pain gratuitement à 5 piastres, qui est une devise qui n'est pas imprimée. Donc le gouvernement égyptien prend à sa charge d'offrir le pain à sa population.
Le pain sans les subventions.
Oui, les subventions, justement. Mm-hmm. Mais c'est en fait, c'est un prix pour une devise qui n'existe pas, qui n'est même pas imprimée. La première devise imprimée est 25 piastres. Le pain est vendu à 5 piastres. Donc c'est une devise, un montant tout à fait théorique. Donc ils offrent le pain gratuitement à une population qui augmente dans ces proportions. Remarquablement bien gérée. Les coupures de courant n'existent pas. Les routes sont faites. Il y a un travail qui est fait considérable avec un problème majeur d'une population qui augmente dans des proportions extrêmement importantes.
Alors, encore candidat à la présidence, pas encore élu, dans une interview à la télévision, Abdel Fattah al-Sissi avait expliqué fin décembre 2014 quelle était sa stratégie pour sortir l'économie égyptienne du marasme. On va voir si ça a marché. On l'écoute.
L'Égypte est en perdition, c'est une nation menacée. Je ne peux pas me payer le luxe de travailler sur un dossier et en délaisser un autre, de travailler sur l'enseignement et quand ce sera fini, de démarrer le développement. Je ne peux pas dire que je vais parler d'économie et négliger la santé. Il faut adopter la stratégie des axes de développement parallèles. Nous devons travailler dans tous les domaines simultanément. C'est dur, oui, ça nécessite un effort, certainement. Mais le problème est toujours aussi l'argent. L'Égypte a besoin d'hommes, des lions, des sages, des génies, des personnes désintéressées. Il n'est pas question de venir tenter des expériences car l'Égypte n'est pas en état de le supporter. Je recherche mon équipe dans le secteur civil et j'ai rencontré de nombreuses personnes. Il faut que chaque ministre soit secondé par des jeunes talents prometteurs. S'il n'y a pas une deuxième et une troisième génération prête, nous aurons failli à l'égard des jeunes et de la nation.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de la situation économique égyptienne avec Pascal Deveau, économiste à la BNP Paribas, Robert Solé, journaliste et écrivain, et Mounir Makar, homme d'affaires égyptien. Cette déclaration de celui qui allait devenir le chef de l'État égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, Mounir Makar, est-ce qu'elle reflète une vraie volonté de dramatiser sur le plan financier comme sur le plan des équipes chargées de relever le pays? Est-ce qu'il y a eu une mutation depuis son arrivée au pouvoir? Est-ce qu'on a rajeuni, rendu plus compétent, moins corrompu les élites qui dirigent l'Égypte?
D'abord, nous avons eu une succession de gouvernements qui se sont les uns après les autres. Les ministres ont été maintenus pour des durées beaucoup plus courtes que ce qu'on connaissait avant. Je dirais que le personnel est renouvelé assez régulièrement. Nous avons,
peut-être pas toujours de la manière la plus calme qui soit.
Certainement pas calme du tout. Il y a une recherche et un désir de renouveler les cadres. Ça, c'est un fait.
Robert Solé.
L'Égypte, je crois, s'est beaucoup modernisée au cours des dernières décennies. Restructuration du secteur bancaire, etc. Il y a eu énormément de choses de fait, informatisation et tout. Simplement, l'Égypte, je crois, je parle sous le contrôle de Mounir Makar, l'Égypte subit quand même le contre-coup de tout ce qui s'est passé au cours des dernières décennies. Il ne faut pas oublier qu'on est passé d'un socialisme étatique à un libéralisme, l'ouverture, l'infitah de Sadat depuis les années 1975. Et tout ça s'est superposé. L'Égypte a toujours une armée qui occupe dans l'économie une place énorme, énorme. C'est un empire qui a ses usines, qui a ses fermes, qui a ses hôtels, qui dispose d'une grande partie du territoire national. Il y a tous ces problèmes à régler. Alors, on parlait de Sissi. Sissi, moi, j'ai l'impression, je ne suis pas économiste, mais qu'il a une politique de grands travaux, le canal de Suez et d'autres, mais on ne saisit pas très bien quelle est sa politique économique. C'est une politique de grands projets, spectaculaires, pharaoniques, Mais quelle est la politique économique ?
Alors vous me fournissez, Mounima, car je vous donne la parole dans quelques instants, vous me fournissez, Robert Solé, la transition. L'armée est aussi très impliquée dans les grands travaux entrepris par le président égyptien. Premier de ces grands travaux, le doublement du canal de Suez, qui a été inauguré le 6 août de l'an dernier. Ce nouveau dispositif avait été testé quelques semaines auparavant, avant l'inauguration, à la satisfaction des autorités. Et le correspondant de RFI au Caire, Alexandre Bouchianti, en rendait compte le 26 juillet 2015. Sur nos antennes, on le retrouve.
Pour l'amiral Mohamed Mamish, président de l'autorité du canal de Suez, le défi pharaonique consistant à doubler la capacité de la voie d'eau internationale en un an au lieu de trois a été relevé.
Aujourd'hui, nous avons terminé. Nos cartes sont dressées, les règles et systèmes de navigation sont terminés. La planification était bonne, le démarrage était bon, et donc la fin des travaux est bonne par la grâce de Dieu.
Entre nouveau canal et nouveau chenal de navigation, la voie d'eau a été doublée sur 72 km, permettant le passage simultané des convois Méditerranée-Mer Rouge et Mer Rouge-Méditerranée. La profondeur du canal a aussi été portée à 66 pieds sur toute sa longueur, 195 km, chenaux compris. Cela devrait permettre le passage de géants des mers. Pour réaliser cet exploit, les Égyptiens ont eu recours au service des deux tiers des dragueurs du monde et ont travaillé 24 heures par jour, 7 jours sur 7.
Alexandre Bouchianti au Caire, qui nous relatait donc cette réussite technique et politique et peut-être économique qu'est le doublement du canal de Suez. Robert Solé nous disait qu'il ne percevait pas trop quelle était la stratégie économique au-delà des grands travaux que mettait en place le président El-Sissi. Mounir Makar, vous l'apercevez ?
Oui, d'abord, pendant 5 ans, on n'a pas eu véritablement d'investissement en Égypte. On était dans une recherche politique interne, événement fondamentalement politiques qui ont un petit peu gelé l'activité d'investissement. Donc il était important de reprendre une politique d'investissement. Un. Deux, il y a Keynes, ce système qui consiste à faire des grands travaux et créer de la croissance. Nous étions arrivés à des croissances extrêmement modestes, voire même peut-être négatives. Et là, on repart sur des taux de croissance assez importants. Et ces grands travaux ont contribué, je pense, à remonter la pente.
Pascal Deveau, vous partagez le même
oui,
point de vue ?
Je suis tout à fait d'accord au sens où ces grands travaux offrent un cadre économique pour des opérateurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Mais c'est vrai que ce qui va améliorer les perspectives de croissance en Égypte, ça va être le développement de l'activité du secteur privé, qui va provenir à la fois des investissements étrangers. On voit que pour l'instant, ces investissements en dehors de l'énergie sont relativement frileux parce qu'on a un environnement économique, notamment monétaire, qui reste encore assez risqué. Et par ailleurs, c'est un axe politique assez important du gouvernement, le développement de l'activité des PME. On a une politique très active de distribution du crédit provenant des banques locales vis-à-vis des PME. C'est quelque chose qui commence à se mettre en route et qui est tout à fait nouveau et qui pourrait produire des résultats intéressants, étant donné notamment qu'on a une grande partie de l'économie égyptienne qui est informelle ou qui est à la lisière du secteur informel. Et ce secteur économique est constitué essentiellement de PME.
Alors, on va en voir un exemple avec ce nouveau reportage de François Humphert Kataji au Caire, parce qu'il y a aussi l'émergence d'une classe d'entrepreneurs dans le secteur des nouvelles technologies. Ce sont encore des PME, Pascal Deveau. Un reportage Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs, signé donc François Humphert Kataji au Caire, auprès des start-upers.
Inexistante il y a encore 5 ans, les pépinières de start-up SM désormais au Caire. L'une des plus connues d'entre elles se trouve sur l'un des campus de l'université américaine à 2 pas de la place Tahrir. Mohamed Mansour est le fondateur de Rise Up, une entreprise qui cherche à mettre en contact les investisseurs et entrepreneurs. Durant les derniers mois de l'année 2015, 4 start-up égyptiennes ont réussi des levées de fonds de plusieurs millions de dollars.
Nous avons eu comme ça 2, 3, 4 investissements massifs. Nous n'étions pas prêts, c'était surprenant pour nous. Récemment, nous avons surtout vu la création d'entreprises dans le secteur des énergies renouvelables, mais le secteur le plus porteur est celui des téléphones portables et d'Internet.
Ces quelques succès ne constituent cependant pas la norme et les investissements sont la plupart du temps trop maigres.
L'énergie est là, l'espoir est grand, mais il n'y a pas assez d'argent.
Nader El-Badraoui a lancé 2 startups ces 6 derniers mois. Jobzella, déjà devenu le premier site de recherche d'emploi au Moyen-Orient. Il lance également Ousta afin de concurrencer Uber et Karim dans le domaine des transports aux particuliers. Il jalouse cependant le voisin jordanien.
Il y a beaucoup plus d'argent en Jordanie parce qu'il y a plus de soutien de la part du gouvernement. La reine et le roi vont sur le terrain pour soutenir les entrepreneurs, le secteur des hautes technologies. Mais ici, le gouvernement ne nous soutient pas comme il le faudrait. Nous souhaitons des infrastructures, des crédits d'impôt ou des exonérations de charges. Le gouvernement pourrait nous fournir ces services gratuits également. Et le plus important pour toutes les start-up, c'est l'exposition. Leur logiciel est périmé. Ils ne pensent pas à Uber ou Karim comme des entreprises. Ils pensent que ce sont seulement de simples applications pour téléphone portable. Ils pensent que ce sont des petits services. Ces entreprises sont considérées comme des enfants qui voudraient jouer au grand. Mais je crois qu'ils ne connaissent pas la réelle valeur d'Uber.
Plusieurs chefs de start-up déplorent également les règlements imposés par l'armée. En raison de la lutte contre le terrorisme, les matériels de communication de haute technologie ne peuvent pas être librement importés. L'utilisation des données, le paiement en ligne ou la vente à l'international est très sévèrement contrôlée.
C'est un reportage signé François Humfer Kataji au Caire. Qu'est-ce qu'il nous dit de l'économie égyptienne, ce reportage, Robert Solé? Est-ce qu'il nous dit que c'est une tentative, il y a une poussée de jeunes entrepreneurs qui sont brimés, bridés, au contraire de ce qui nous était dit auparavant, par l'appareil bureaucratique égyptien?
Je parlais de deux Égyptes tout à l'heure. Là, il existe une Égypte inventive, dynamique, éduquée, et alors qui se heurte à cette administration, et aussi à la corruption.
Moi, je me permets de dire simplement que des petits points qui sont intéressants, une population d'à peu près 90 à 92 millions d'habitants et un nombre de téléphones portables de 120 millions. Il y a 120 millions de lignes téléphoniques portables en Égypte pour une population de 92 millions. 1. 2. La pénétration de l'Internet en Égypte représente à peu près 30%, 27% de la population, ce qui est une proportion extrêmement importante dans un contexte que l'on dit être un pays où l'éducation n'est pas au niveau qui devrait être.
Robert Soleil, il y a une vieille classe capitaliste, une vieille classe entrepreneuriale en Égypte, des grandes familles.
Oui, non, mais ce que je voulais, j'enchaîne sur ce qui vient d'être dit quand même, c'est une Égypte vraiment à deux vitesses, y compris dans l'éducation publique, l'instruction publique. Dans une même école publique, vous aurez deux écoles. Il y a ceux qui peuvent se payer des cours particuliers et ceux qui ne peuvent pas. Et les cours particuliers, ce sont des classes parallèles. Et c'est vrai de la maternelle à l'université. Vous avez vraiment deux Égyptes. C'est un vrai problème. Il y a un homme d'affaires en Égypte me disait, désormais, nous faisons deux plans, deux business plans, un pour l'Égypte A et l'autre pour l'Égypte B. Moi, c'est l'impression que j'ai. Je ne suis pas économiste, mais c'est l'impression que j'ai.
Pascal Deveau, vous êtes économiste. C'est l'impression que vous avez aussi.
Oui, aussi. Alors, mais c'est quelque chose qu'on observe dans beaucoup de pays émergents. On peut voir des pays émergents qui font des croissances importantes avec une population relativement importante qui reste marginalisée économiquement, malgré des bonnes performances macroéconomiques.
Mais revenons à ces grands capitaines d'industrie, Mounir Makar. Il y a autour de vous des grandes familles.
Absolument. Comme je le disais tout à l'heure, une grande partie des investissements ne sont pas nécessairement pris en compte par l'État ou par les capitaux étrangers. Ils sont entrepris par les entreprises égyptiennes. Ce sont les premiers investisseurs. Le secteur privé égyptien compte pour la majeure partie des investissements qui sont faits en Égypte.
Et quels sont les noms de ces grandes familles? Qui sont-ils? Saouiris.
Oui, bien sûr. Mais vous avez plusieurs entreprises, à part la famille Saouiris, qui a une grande diversification dans leurs activités et qui ont d'ailleurs un réseau international qu'ils mettent à profit pour développer localement. Mais vous avez d'autres familles. Mais ce n'est pas nécessairement des familles. Ce sont des entreprises qui ont leur rôle et qui Souedi, par exemple, dans le domaine de l'électricité. Vous avez Mansour dans d'autres secteurs. Ce sont des groupes qui sont devenus des groupes industriels, des groupes internationaux. et qui investissent en Égypte.
Pascal Deveau.
Oui, pour reprendre l'exemple du groupe Sweedy, c'est vrai que c'est une vraie multinationale dans le secteur des câbles et des compteurs électriques notamment, et qui est, c'est une vraie entreprise de qualité internationale et qui est présente, qui a ses activités en Égypte et qui a des activités partout dans le monde.
C'est-à-dire que l'Égypte est capable d'exporter des chefs d'entreprise, des capitalistes, des capitaux, des savoir-faire.
Ils ont investi en Afrique, en Europe, aux États-Unis, un peu partout.
Robert Solé, ça vous donne confiance dans cette double... Est-ce que la deuxième Égypte est capable d'entraîner la première ou vice-versa ?
C'est tout le pari, en effet, c'est tout le pari et c'est tout le problème de l'éducation. Vous avez d'excellentes écoles en Égypte, vous avez toute une partie de la population qui est très bien éduquée. Et puis une immense majorité quand même qui souffre de toutes les carences de cette éducation de masse, qui a été positive dans la mesure où c'est une éducation de masse, mais qui est de très mauvaise qualité.
Merci à vous, Mounir Makar, Robert Solé, Pascal Deveau, de nous avoir éclairé sur l'économie égyptienne. Cette émission est maintenant terminée. Je signale aux auditeurs qu'on peut retrouver Robert Solé et son œuvre, en quelque sorte, sur son site internet, robertsolé.wordpress.com. Victor Ouvra a réalisé et mis en onde cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous.